RCF. Comment avoir une juste estime de soi sans tomber ni dans le narcissisme, l'orgueil, ni se dévaloriser ou être écrasé par une image négative de soi, ni tomber sans cesse dans la comparaison? Christophe André, vous êtes médecin psychiatre. Pendant des années, vous avez accompagné à l'hôpital Sainte-Anne de Paris des personnes anxieuses, dépressives, avec souvent une très faible estime d'elles-mêmes. Vous êtes bien connu également, Christophe André, pour vos livres, vos podcasts, vos émissions radiophoniques qui accompagnent, qui soulagent des centaines de milliers de personnes en France, mais aussi à l'étranger. On vous doit notamment d'avoir initié la méditation de pleine conscience comme une pratique thérapeutique. Alors Christophe André, votre nouveau livre, publié chez Odile Jacob, s'intitule « S'estimer et s'oublier ». C'est le troisième ouvrage en près de 25 ans que vous consacrez à l'estime de soi. Pourquoi vous semble-t-il si important de revenir et d'approfondir ce thème de l'estime de soi ?
D'abord parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup et les choses qu'on aime. Enfin, moi, je fais partie des gens qui reviennent beaucoup vers les choses qu'ils aiment. Il y a des gens qui, voilà, bon, une fois qu'ils ont approfondi un domaine, ont envie de passer à un autre. Enfin, on est tous un peu comme ça, mais c'est vrai aussi qu'il y a ce plaisir d'affiner, d'aller encore plus profonde, voilà, avec tout ce qu'on aime faire, hein. Puis il y a des choses dont on ne se lasse pas, mais bon, enfin, pour revenir à l'estime de soi, d'abord, c'est vrai que les deux livres précédents pouvaient s'assembler avoir fait le tour du sujet, hein. Le premier, qui s'appelait L'estime de soi, était très nouveau à son époque, c'était en 99, et on était parmi les premiers, avec mon collègue François Lelor, avec qui je l'ai écrit, à aborder ce concept d'estime de soi. À l'époque, on parlait plutôt de confiance en soi, qui propose un angle plus limité. La confiance en soi, c'est voilà le sentiment sur ma capacité à l'action, à réussir plus ou moins raisonnablement mes actions.
Plus dans le faire, voilà, que dans l'être.
Oui, dans le faire, mais c'est important le faire aussi. Faut pas hiérarchiser, c'est pas l'être et pas mieux que le faire, mais voilà, les deux sont importants. Le second s'appelait Imparfaits, libres et heureux, et dès le titre, voilà, c'était clair, mon programme était clair. C'est pour avoir une bonne estime de soi, c'est pas nécessaire d'être parfait. La quête de la perfection est souvent épuisante et stressante, hein, pour nous, pauvres humains, forcément imparfaits par essence. Et donc, j'y développais la notion d'acceptation de soi, de bienveillance envers soi, qui fait partie de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est pas seulement se mettre la pression pour bien faire. C'est important, hein, d'être exigeant, mais c'est aussi être bienveillant avec soi dans cette quête des progrès personnels. Mais là, ce troisième livre, S'estimer, s'oublier, d'abord, il me semblait nécessaire, j'avais envie de l'écrire, parce qu'on a pas mal de données scientifiques qui sont apparues depuis une dizaine d'années sur justement ces questions d'estime de soi et d'accès à l'estime de soi. On aura l'occasion d'en parler, je suppose, mais comment expliquer, par exemple, que la pratique de la méditation améliore l'estime de soi? Comment expliquer que la pratique de l'altruisme améliore l'estime de soi? Donc, toutes ces données-là, je voulais les clarifier. Puis, il y a aussi quelque chose qui m'a poussé à écrire ce livre, S'estimer et s'oublier. C'est le s'oublier. C'est-à-dire, c'est la constatation que notre époque me semble bien narcissique, bien égoïste, bien égotiste. Alors, faut pas généraliser, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de générosité, beaucoup d'élan vers les autres, mais quand même, il y a une tonalité générale du discours ambiant qui me semble véhiculer trop d'égoïsme.
Alors, justement, question qui me taraude, c'est est-ce que cette question autour de l'estime de soi est particulière chez les Occidentaux que nous sommes par rapport aux Africains, aux Orientaux, qui ont une vision peut-être moins individualiste que les Occidentaux?
Oui, alors ça, c'est des questions très compliquées parce que, bien sûr, c'est un concept occidental. L'estime de soi, c'est clair que ça nous appartient au départ, hein. C'est vraiment les sociétés occidentales, notamment depuis la fin du 19e, le début 20e, hein, où voilà, il y a beaucoup de mobilité, donc il s'agit d'avoir un sentiment de sa valeur personnelle suffisant pour nous permettre d'affronter la vie, la recherche d'un métier, la recherche d'un partenaire sentimental, le fait de se faire des nouveaux amis, des nouveaux collègues de travail. Comme on bouge beaucoup, nos sociétés sont devenues très mobiles par rapport aux sociétés anciennes. Évidemment, cette question de l'estime de soi, elle est importante. Alors, elle l'est sans doute aussi pour les autres civilisations, c'est évident. Qu'en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique, notamment, voilà, les civilisations traditionnelles, il est important pour un individu de se sentir bien avec lui-même, mais sans doute sous une forme différente de la nôtre. Donc c'est vrai que mon discours s'adresse principalement à des occidentaux, mais moi, il y a des choses qui me fascinent, c'est que par exemple, mes livres sur l'estime de soi sont traduits dans tout un tas de langues et beaucoup traduits et beaucoup lus en Orient. Donc il y a un truc...
Notamment en Corée, au Japon.
Corée, Japon, Chine, voilà. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Mais comme vous le disiez, alors, ce qui est frappant, c'est que la voie d'entrée en matière d'estime de soi en Orient, très clairement, elle est beaucoup plus attentive au respect des règles d'autrui. C'est-à-dire, pour avoir une bonne estime de soi, il faut se sentir reconnu par le groupe. Alors, ça, c'est vrai aussi pour les Occidentaux.
Pour être intégré dans le groupe. Hein,
voilà, ça. Mais c'est très important pour les Orientaux. Vraiment, chez eux, c'est dans le confucianisme, ça aussi en Chine, hein, la notion de respect des règles sociales, d'assentiment aux règles sociales et de validation par le groupe du fait qu'on est des bons humains, des bons citoyens, est beaucoup plus forte que chez nous. Mais peut-être qu'on est en train de leur exporter nos maux, nos maladies, nos virus concernant le narcissisme, parce que apparemment, chez eux aussi, hein, ces choses traditionnelles se délitent un peu.
Alors Christophe André, voyons ce que c'est que l'estime de soi. Entrons un peu dans le cœur du sujet. Déjà, quand vous parlez de l'estime de soi, vous parlez de quoi ?
Alors, c'est ce rapport à nous-mêmes qui est un rapport compliqué parce qu'il mélange à la fois des émotions, des jugements, etc. Mais moi, il y a une définition que j'aime beaucoup de l'estime de soi qui est la plus simple et qui est opérationnelle, comme on dit, qui est utile, qui permet d'agir. C'est finalement, c'est le résultat de la manière dont je me vois, dont je me juge et dont je me traite. Ces trois dimensions sont importantes. C'est-à-dire l'estime de soi, c'est d'abord comment je me vois, comment je me regarde, qu'est-ce que j'ai tendance à voir chez moi. Est-ce que j'ai tendance à voir plutôt mes qualités, mes points forts, ou est-ce que je me focalise plus sur ce qui ne va pas ? C'est comment je me juge. Est-ce que ce que je fais, ce que je suis, je le juge avec beaucoup de sévérité ou au contraire trop de complaisance? Et puis, comment je me traite? C'est peut-être le point le plus important d'ailleurs, hein, je le cite en dernier, mais il est premier, c'est-à-dire comment je réagis quand finalement j'ai réussi quelque chose. Est-ce que je bombe le torse? Est-ce que je pense que je suis le roi des rois, le maître du monde, le plus beau, le plus fort? Ou est-ce que je reste calme, quoi? Je me dis, c'est agréable de réussir, mais voilà, ça n'en dit pas forcément beaucoup plus sur toi que tes échecs. Et de même, comment je réagis quand j'échoue? Est-ce que je me maltraite? Est-ce que je me fais des autocritiques destructrices? Est-ce que je me fais du mal? Ou est-ce qu'au contraire, je me dis, bon, ben ça, voilà, ça fait mal, hein, d'échouer. Prends d'abord soin de toi, puis après tu réfléchiras à ce qu'il faut changer pour la suite. Et cette notion de comment je me traite, elle renvoie à une vision de l'estime de soi que j'aime beaucoup, que le premier à énoncer clairement a été Montaigne, quand il parlait de l'amitié que chacun se doit. Pour Montaigne, chaque être humain se doit d'être un ami pour lui-même. Et un ami, ben, c'est quelqu'un qui nous apprécie, qui est à la fois exigeant et bienveillant avec nous. Il ne nous laisse pas faire de bêtises, mais il est sympa quand on souffre.
Mais Christophe André, où s'enracine cette estime de soi ou cette non-estime de soi? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est lié à l'éducation?
Oui, oui, ben c'est tout en même temps, c'est tout en même temps. La plupart de nos traits psychologiques sont la résultante d'un triple mélange, c'est-à-dire d'une part Il y a certainement un peu de génétique. Très clairement, quand on regarde les quelques études, il n'y en a pas des tonnes, hein, c'est compliqué à étudier évidemment la génétique de l'estime de soi, mais il faut avoir des tas de couples, de jumeaux, certains qui ont grandi ensemble, d'autres qui ont été séparés, etc. Mais on y arrive quand même. Il y a un fond génétique qui est surtout lié à l'équilibre émotionnel. On sait que chez les humains, il y a des humains qui ont des prédispositions aux émotions agréables.
Certains vont être optimistes naturellement et d'autres qui pessimistes sont naturellement.
Voilà, qui sont plutôt des bonnes natures, qui ont tendance comme ça, sans effort, à prendre la vie du bon côté, quand des bonnes choses leur arrivent, à les savourer assez naturellement. Et puis d'autres qui sont soit des inquiets, qui même les bonnes choses, ils ont peur que ça ne dure pas.
Et ça c'est génétique, c'est transgénérationnel.
Ce sont des prédispositions génétiques. C'est-à-dire la génétique, vous savez, c'est pas quelque chose qui s'impose à nous de façon radicale, en tout cas pas dans ces traits psychologiques là, mais ce sont des prédispositions qui vont prendre l'ascendant sur notre cerveau si on ne fait pas d'efforts. Je peux avoir des prédispositions génétiques parce que je viens d'une famille où voilà, les gens étaient plutôt des inquiets, des mélancoliques depuis des générations et des générations, et je vais avoir tendance à être comme ça, sauf si je me dis, ben mon vieux, faut changer, il faut te remuer.
C'est ce que vous avez fait.
Voilà, c'est ce que j'ai fait moi. Moi, je viens d'une famille, effectivement, où le fond génétique était tristouné, inquiet, des gens voilà, qui n'avaient pas eu des vies faciles depuis des générations et des générations. Et donc,
vous avez travaillé sur vous.
Ouais,
du coup, ça vous a peut-être orienté pour devenir l'homme que vous êtes aujourd'hui et le médecin que vous êtes.
Ouais, l'homme, la personne que je suis aujourd'hui n'est pas seulement le fruit des influences génétiques, mais aussi le fruit de l'adaptation et de la lutte contre ces influences. Mais pour l'estime de soi, il y a un petit fond, et qui est lié plutôt à la prédisposition aux émotions agréables qui conditionne l'estime de soi. Parce que comme vous le savez, les émotions douloureuses tendent à... si j'ai prédisposition à la tristesse, eh bien cette prédisposition émotionnelle va me pousser à voir plutôt les choses qui ne vont pas, à être plutôt un inquiet perfectionniste, et ça c'est pas super pour l'estime de soi, parce que ça fait de moi un éternel insatisfait, je suis jamais content de moi, etc. Donc,
mais Christophe André, je vous interromps, mais pourquoi dans la même famille, donc avec les mêmes gènes, avec les mêmes histoires familiales, vous allez avoir un enfant qui va être plutôt confiant dans la vie, plutôt optimiste, et un autre qui va être un angoissé, un anxieux, ou qui ne va pas s'aimer.
Eh bien, parce que la génétique, ce n'est pas le clonage. C'est-à-dire que la seule chose que dit la génétique, c'est que vous avez des chances plus grandes d'être plutôt un joyeux ou plutôt un triste, selon le nombre d'ancêtres qui l'auront été. Mais ces chances ne sont pas une certitude. C'est pas une transmission en ligne directe et à 100%. Vous avez...
C'est valable physiquement et c'est valable psychologiquement.
C'est pareil, c'est comme pour les traits physiques, les familles où les gens sont plutôt des petits bruns ou des petites brunes, statistiquement, il y a plus de chances que les gamins soient comme ça. Puis un jour, il y a un grand blond ou une grande rousse qui débarque. Et l'essentiel du patrimoine génétique, mais tout à coup, il y a le gène d'un ancêtre qui est sorti au milieu. Bon, c'est comme ça. Donc, pour terminer avec votre question, vous voyez, j'ai fait des réponses très longues sur les influences. Il y a les influences génétiques quand même qui sont pas prédominantes, mais qui existent. Et parfois, il faut lutter contre elles. Il y a bien sûr tout l'acquis. Le bain éducatif, le bain affectif. Est-ce que mes parents m'ont sécurisé affectivement? Est-ce qu'ils m'ont valorisé sans trop me valoriser? Comment eux-mêmes fonctionnaient par rapport à l'estime de soi? C'est-à-dire, en gros, comment eux-mêmes digéraient leurs échecs, digéraient leurs succès? Voilà. Donc, il y a tout ce bain affectif, éducatif de ma petite enfance qui pèse très lourd. Lui, par contre, plus lourd, sans doute, que les influences génétiques. Et puis après, il y a le bain social, c'est-à-dire la société dans laquelle je grandis peut me mettre des pressions terribles sur l'estime de soi. Les sociétés très compétitives, très comparatives, qui poussent sans arrêt les gens à se surveiller, se comparer les uns les autres, ce que les sociologues appellent des tensions comparatives, la nécessité de voir où j'en suis, est-ce que je suis dans le troupeau, est-ce que je suis au-dessus, est-ce que je suis au-dessous. Voilà, ça c'est la troisième touche. Donc il y a, c'est ce qu'on appelle en psychiatrie, j'explique souvent ça aux étudiants, c'est le biopsychosocial, le modèle biopsychosocial. Un peu de biologie, beaucoup de psychologie et pas mal de sociologie aussi dans ces influences.
Alors Christophe André, dans votre nouveau livre « S'estimer et s'oublier », vous parlez à plusieurs reprises de l'impact des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est dans une société où ces réseaux sociaux se sont très rapidement diffusés. Et vous êtes clair là-dessus, les réseaux sociaux, pour vous, participent au mal-être et à une certaine destruction de l'estime de soi. Vous pouvez nous donner juste quelques repères pour comprendre en quoi ces réseaux sociaux sont néfastes pour l'estime de soi.
Alors, ils sont néfastes de mille et une façons. Alors, ils ont des bons côtés, hein. C'est toujours ça le problème. Enfin, on peut pas faire une charge univoque contre les réseaux sociaux. Il y a des côtés sympas, retrouver la trace de ses vieux copains, de parents, de proches au bout du monde. Bon, tout ça est bien, mais ils ont quand même un effet globalement très toxique. Ben d'abord, ils ont cet effet toxique qui est qu'ils nous coupent du monde réel. Ce sont les scènes auxquelles on assiste toutes et tous, hein. Vous êtes au restaurant, vous voyez toute une famille qui ne se parle pas en attendant que les plats arrivent et qui chacun est plongé sur son téléphone portable, dans les lieux publics, que ce soit dans les transports en commun, les bistrots, tout ça. Les gens ne s'observent plus, ne se regardent plus, et du coup n'échangent plus, mais ils sont réfugiés dans leur sur leurs écrans. Donc ça, c'est un premier problème pour l'estime de soi, parce que l'estime de soi, elle se nourrit du rapport aux autres. C'est ce qu'on oublie trop souvent, hein. C'est l'estime de soi.
Intéressant, c'est pas du narcissisme, non, c'est pas du repli sur soi, c'est dans la relation aux autres.
Elle se construit dans la relation aux autres, l'estime de soi. C'est l'estime de soi parmi les autres, hein. Ça, c'est, on pourra en reparler, mais si les humains sont dotés justement de ce sentiment qu'est l'estime de soi, de cette capacité qu'est l'estime de soi, c'est parce qu'ils sont des êtres sociaux. Si vous êtes un solitaire, Robinson Crusoe sur son île déserte, il n'a pas besoin d'estime de soi, c'est pas du tout ça qui est en jeu. Donc bref, les réseaux sociaux nous coupent des autres et nous tournent vers, bien sûr, d'autres autres, mais des autres virtuels, des autres...
Les autres mises en scène quelque part, et en montrant toujours leur bon côté.
Alors ça, c'est le second côté toxique des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont mensongers. C'est-à-dire qu'en général, les gens n'y disent pas la vérité, même si depuis quelque temps, on voit apparaître un souci sur les réseaux sociaux de montrer son corps tel qu'il est, par exemple, chez certains influenceurs, ou de parler de ses états d'âme. Mais majoritairement, non. On prend la pose, on montre ses muscles, ses succès, ses belles vacances, ses beaux copains, etc.
Et donc, on se compare toujours à ceux qui se sont présentés sous leurs meilleurs aspects, c'est ça? Ça nuit à notre estime de nous-mêmes.
On peut pas faire autrement. C'est-à-dire, ce que doivent comprendre les humains, c'est que leur cerveau est une machine à comparer. Une fois de plus, nous sommes des êtres sociaux, donc dès que vous mettez quelqu'un dans un groupe, inconsciemment, il va se positionner par rapport aux autres. Et c'est ça qui va nous donner le sentiment dans un groupe qu'on est à notre place ou qu'on n'est pas trop à notre place. Hein, si vous arrivez dans un groupe de gens extrêmement différents de vous, de par leur apparence physique, de par leur statut social, de par leur manière de se comporter ou d'échanger, vous allez pouvoir vous sentir tout à fait à votre place parce que vous n'êtes pas trop différent ou au contraire à des années-lumière de ces gens. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas intéressant, que ça ne vaut pas la peine, mais tout à coup, vous allez pouvoir être très insécurisé dans certains milieux, des gens trop beaux, trop riches, trop cultivés, ou semblant l'être, ou au contraire, très à l'aise, très flatté, parce que voilà, c'est l'impression que vous êtes très capable. Voilà. Et on a des études d'ailleurs très drôles. Hein. Si j'ai le temps, je vous raconterai volontiers cette étude qui est un classique, c'est Monsieur Crade et Monsieur Propre. Vous faites venir des volontaires au labo de psychologie, puis vous leur dites, voilà, on va vous faire passer des questionnaires, il y a deux tables. Ils commencent à remplir leur questionnaire, la table voisine de la leur est vide, mais quelqu'un va arriver bientôt. Et le premier des questionnaires, c'est un questionnaire d'estime de soi. Puis après, on leur en fait passer d'autres. Dès qu'ils ont passé le questionnaire d'estime de soi, vous faites rentrer un autre volontaire qui va lui aussi remplir les questionnaires, mais qui en fait est un comparse. Tantôt, c'est quelqu'un qu'on appelle Monsieur Propre, de très beau, très musclé, très intelligent. Il remplit les questionnaires à toute allure. Il a un parfum magnifique, il est souriant, poli. Et il part alors que vous êtes encore à la page 8 de votre questionnaire. Il a fait, lui, les 30 pages en 5 minutes. Et Dans d'autres cas, pour d'autres personnes, on va faire entrer M. Crade. Et M. Crade, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui bâille, qui sent le tabac froid, qui n'arrive pas à remplir ses questionnaires, qui s'endort sur la table. Enfin bon, qui n'est pas très, voilà, pas très reluisant. Et ce qu'on voit, c'est que si vous êtes confronté à M. Propre, quand vous remplissez vos questionnaires, le second questionnaire d'estime de soi qu'on vous fait passer va avoir baissé. Ça a baissé votre estime de vous-même. Vous êtes la même personne, mais vous avez vu quelqu'un qui vous semblait tellement supérieur, et du coup, vous sentez inférieur. Et à l'inverse, confronté à Monsieur Crade, entre guillemets.
Mais cela veut dire, Christophe André, que nous sommes toujours dans la comparaison, et que la comparaison est l'un des gros problèmes de l'estime de soi ou du manque d'estime de soi.
Le mauvais usage de la comparaison. Je crois que le plus simple, le plus important, c'est de considérer qu'on ne peut pas ne pas se comparer. On ne peut pas ne pas respirer, on ne peut pas ne pas penser, on ne peut pas ne pas se comparer. On va toujours se comparer, mais qu'allons-nous faire du résultat de ces comparaisons? Est-ce qu'on va se dire, bon, voilà, fais attention, quoi. C'est pas parce que tu as l'impression que cette personne, tu es plus ceci ou plus cela qu'elle. Tu n'es pas forcément supérieur, puis ça ne veut pas dire que tu dois la mépriser, etc. Donc reste, n'est-ce pas parce qu'elle n'a pas du tout le même avis que toi et que tu penses que tu as raison, que tu dois rentrer en combat, en conflit ou en mépris avec elle. Et surtout les comparaisons vers le haut, c'est pas parce que quelqu'un te semble beaucoup plus fort que toi que il peut pas t'inspirer ou que tu ne peux pas aller vers lui. Ne sois pas forcément intimidé. Les gens plus brillants, plus cultivés que nous, on peut profiter de leur intelligence pour apprendre des choses ou observer comment ils fonctionnent pour se dire, tiens, je peux peut-être m'en rapprocher, je peux peut-être m'en inspirer, etc. Donc, il y a un bon usage et un mauvais usage de la comparaison, mais on compare tout le temps sans s'en rendre compte.
Visage RCF.
En vous lisant, Christophe André, et en lisant cet abécédaire de votre livre, S'estimer et s'oublier, je me suis dit, mais fondamentalement, la question n'est-elle pas de se connaître soi-même pour s'estimer, pour apprendre à s'accueillir tel que nous sommes, ne faut-il pas grandir peu à peu dans une certaine forme de sagesse, pour reprendre l'expression antique, et apprendre à se connaître, à savoir qui nous sommes?
C'est une des composantes, mais c'est pas la seule. C'est-à-dire, la connaissance de soi, bien sûr, elle est fondamentale. On vient d'en parler par rapport à la comparaison. C'est-à-dire, la connaissance de soi, elle est indispensable pour comprendre comment je fonctionne, pourquoi je suis triste, pourquoi je suis envieux, pourquoi je suis fier, pourquoi je me sens dévalorisé. Si on ne se pose jamais ces questions, évidemment, on va continuer d'avancer dans le brouillard total et d'être le jouet des circonstances, le jouet des autres, le jouet des événements, le jouet du hasard. Donc, oui, la connaissance de soi, elle est fondamentale, et bon, on le sait depuis Socrate, Agnotis et Auton, connais-toi toi-même, etc. Mais ça, pour un psychiatre, finalement, c'est, bon, voilà, c'est évident, quoi. Pour nous, c'est
ça. Mais je sais pas si c'est aussi évident que ça.
Non.
Est-ce qu'on consacre du temps à vraiment réfléchir, à savoir, quand je dis je, qu'est-ce que je dis? Qui suis-je?
Oui.
Ah non. Qui est derrière toutes ces émotions qui nous agitent?
Bien sûr.
Ces pensées qui arrivent? Est-ce que c'est moi qui pense finalement? Je regroupe beaucoup de choses là-dedans. Mais ce fameux jeu pour s'estimer soi-même, qui est-il?
Alors ça, c'est une question de philosophe. Hein. Qui est le je? Qui est le moi? Mais ce qui est sûr, là où vous avez raison, c'est que moi, une des choses qui m'aura le plus frappé dans ma carrière de psychiatre, c'est que c'est le peu de temps que les gens consacrent à se poser des questions sur eux. Quand on est psychothérapeute, on a souvent l'impression que le seul moment où les gens réfléchissent sur eux, c'est quand ils sont avec nous. Et que le reste de leur vie, ils sont tête baissée, en train de dans des actions ou des distractions. Soit ils se changent les idées, soit ils bossent, soit voilà, ils font leurs tâches familiales, professionnelles et tout. Mais donc, effectivement, comment prétendre se connaître un tout petit peu? On ne peut jamais se connaître à fond, mais comment se prétendre se connaître un tout petit peu si on ne se penche pas régulièrement sur soi? Pour autant, il n'y a pas que ça. Pour autant, je pense que les clés de l'estime de soi ou les clés de l'équilibre personnel, elles sont triples. Il y a d'abord effectivement cette notion de la connaissance de soi qui est vrai, c'est l'affaire de toute une vie aussi. On se surprend aussi tout au long de notre vie, on se voit faire des trucs qu'on n'aurait jamais cru pouvoir faire quelques années avant. Donc la connaissance de soi, mais il y a aussi le lien aux autres. Moi, je crois beaucoup, et j'en parle beaucoup dans mon livre, que au travers des relations aux autres, mais des vraies relations, pas celles des réseaux sociaux, pas celles des mondanités, des vraies relations aux autres, les relations de longue durée, les relations...
d'amitié dans la longue durée, hein, vous êtes très sensible à ça.
Les relations de couple, les relations parentales, filiales, c'est-à-dire rester en lien avec les gens, même si par moments ils nous déçoivent, même si par moments ils nous font du mal, garder le lien et peu à peu comprendre ce qu'est un être humain avec ses côtés sombres, décevants, ses côtés lumineux, admirables, etc. Donc je crois que pour savoir qui nous sommes, prenons le temps de connaître vraiment les autres. Je me connaîtrai d'autant mieux que je connaîtrai les autres parce que finalement, on se ressemble beaucoup. Je crois que c'est Paul Valéry qui avait une très belle phrase à ce propos. Alors, il le disait mieux que je ne vais vous le dire. Il disait en gros, les humains se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. Autrement dit, tout ce qui fait qu'on est différent les uns des autres, les vêtements, l'apparence physique, la façon de vivre et tout ça, c'est du superficiel. En réalité, en profondeur, tout ce que nous n'affichons pas, c'est souvent ce qui nous fait ressembler les uns aux autres. Les mêmes souffrances, les mêmes émotions, les mêmes désirs.
D'où l'importance de la bienveillance. La bienveillance avec l'autre tel qu'il est va m'aider à développer la bienveillance sur moi-même.
Alors, oui, d'abord parce qu'elle va me permettre de rester proche de l'autre et donc de continuer à le voir vivre, à le comprendre, à l'observer, donc à apprendre des choses sur ce que je suis moi aussi, un être humain. Puis après, la bienveillance, elle a d'autres fonctions, d'autres importances.
Mais elle est importante pour l'estime de soi, la bienveillance. Vous l'écrivez dans votre livre.
Oui, elle est importante parce qu'elle me sort de moi-même. C'est ça un des paradoxes de l'estime de soi, c'est que l'estime de soi, ce sont à la fois ces moments dont on a parlé, là, c'est se plonger en soi-même, réfléchir sur soi, mais c'est aussi beaucoup de moments où on se dit « Ok, allez, c'est bon, sors de ton petit ego, observe les autres, va vers les autres, fais du bien aux autres, admire-les, sois bienveillant avec eux, et de la compassion, aide-les, sois altruiste, etc. » Donc, toutes ces émotions du lien social, ces émotions positives, ces comportements positifs du lien social, leurs fonctions sont multiples. Ça nous apprend à mieux nous connaître, ça nous apprend à rendre le monde meilleur, ça nous apprend à faire du bien aux gens qu'on aime ou aux gens qu'on croise. On peut être bienveillant avec des inconnus, etc. Donc, second point pour l'estime de soi, le lien aux autres, très très important. Et puis troisième point qu'il ne faut pas oublier, c'est le lien à l'action. L'action, finalement, c'est ce qui va solidifier, donner forme à mes idéaux et à mes désirs et à mes ambitions. C'est-à-dire, si je veux être un meilleur humain, il va falloir d'abord que je me connaissent un peu, voir ce qui m'empêche de faire le bien quand je veux faire le bien, etc. etc. Et c'est pas si facile d'être quelqu'un de bien. Deuxièmement, il va falloir que je voie un peu mieux, un peu plus clairement, que j'ai des intentions plus claires avec qui, quoi, comment, quand. Et puis troisièmement, il va falloir que je le fasse, que je m'y mette, que j'agisse. Et donc, les intentions ne suffisent pas à faire de moi un meilleur humain. Ce qui est important, c'est les intentions mises en action. Et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment les autres l'acceptent. Parfois, j'essaie d'être bienveillant avec les gens et ça ne marche pas parce qu'ils sont mal à l'aise avec « j'en fais trop » ou « je ne le fais pas au bon moment » ou « pas de la bonne façon ». Donc, c'est l'action qui me donne des informations sur la manière d'avancer.
C'est intéressant, Christophe André, depuis le début de notre échange, autour de l'estime de soi, vous insistez sur la relation. C'est pas du narcissisme que de travailler sur l'estime de soi. Je crois que ça, c'est important de le dire. Comme c'est pas du narcissisme que de pratiquer de la méditation.
Ah non. Le narcissisme, il faut bien comprendre ce dont il s'agit, en tout cas pour les psys, ce qu'on appelle narcissisme, c'est pas du tout une bonne estime de soi. Au contraire, tous les travaux qu'on a montrent que les personnes qui sont dotées d'une bonne estime d'elles-mêmes, elles sont assez peu centrées sur elles. elles réfléchissent sur elles, bien sûr, elles font régulièrement le point sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien dans ma vie, qu'est-ce que je dois changer, toutes ces choses-là, mais la plupart du temps, elles sont tournées vers les autres et vers le monde. Hein. Quand elles arrivent dans un endroit, dans une réunion, dans une soirée, dans une, voilà, où que ce soit, dans un groupe humain, elles sont beaucoup plus intéressées à aller vers les gens, à les écouter, à apprendre d'eux, à les comprendre, qu'à se poser des questions du style « qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Est-ce que je vais dire des choses intelligentes ?» Donc,
Donc inversement, quand on n'a pas d'estime de soi, on ne va pas vers l'autre.
Et c'est même un des symptômes. Lorsque les gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, la mésestime de soi, comme c'est une souffrance, comme ça fait souffrir de ne pas s'estimer, on ne se sent pas bien avec soi, on ne se sent pas bien avec les autres, on a toujours l'impression de ne pas être à sa place. Toute souffrance replie notre attention sur nous-mêmes. Si j'ai très mal au dos, très mal aux dents, très mal à la gorge, je suis un peu focalisé sur ce mal de dos, sur ce mal de dents. J'ai du mal, quoi, à m'intéresser à ce qu'il y a autour de moi. Et si j'ai très mal à l'ego, si j'ai des grands complexes, eh bien, je suis trop focalisé sur moi. Et le paradoxe, pour revenir aux narcissiques, c'est qu'ils ont mal à l'ego. Les narcissiques, c'est des gens insécurisés qui veulent à tout prix qu'on les admire, qui veulent à tout prix être supérieurs aux autres. Et donc, ils passent leur temps à essayer de s'imposer aux autres, à parler d'eux, à vouloir obtenir des faveurs. Enfin, il y a une jolie phrase de Gide qui résume bien la philosophie narcissique. Et encore, c'est le côté sympa des narcissiques. Il dit « Je veux pas être aimé, je veux être préféré. Je veux pas qu'on m'aime, je veux qu'on me préfère. Je veux être celui qu'on aime le plus. Voilà, je vais être au-dessus des autres. »
Mais ça rend malheureux, non ?
Parce que ça rend horriblement malheureux.
On n'est jamais aimé suffisamment.
Et puis on ne réussit jamais assez suffisamment, on n'est jamais assez admiré, etc. Les narcissiques, ils sont jamais heureux parce qu'ils sont toujours soit dans le stress de dominer, soit quand ils y sont arrivés, quand ils arrivent parfois à être dominants, à être élus, à être tout ce que vous voudrez, dans le stress de ne plus l'être, ou d'avoir des concurrents, ou qu'on les aime moins, ou de ne pas avoir le pouvoir. Donc ça, c'est le côté, c'est la quête des narcissiques. Après, il y a des mauvais côtés aussi hein, chez les personnalités narcissiques. Ce sont des gens qui ont tendance quand même à mépriser un peu les autres, c'est-à-dire à prendre les autres de haut, à se considérer comme toujours supérieurs et donc à s'attribuer des droits supérieurs. Le problème des narcissiques, c'est pas seulement qu'ils se croient supérieurs, c'est que ils mettent ça en application. Ils considèrent qu'ils ont le droit de parler plus longtemps que vous en réunion. Ils ont le droit de vous passer devant dans une file d'attente parce que leur temps est plus précieux que le vôtre. Et ça, quand même, c'est des énormes problèmes pour la vie en société. Mais ce n'est pas une bonne estime de soi, l'estime de soi des narcissiques. C'est une estime de soi fragile, instable, en quête de reconnaissance et de domination. Et ce n'est pas une bonne idée du tout.
Et la notoriété ? Parce que là, en vous écoutant, il y a les narcissiques et puis il y a les stars. Il y a une entrée d'ailleurs, stars, dans votre livre. Ce sont des gens qui sont reconnus, aimés. C'est pas facile, visiblement, d'être une star. C'est pas facile, la notoriété. Est-ce que la notoriété permet vraiment l'estime de soi ? Elle contribue à l'estime de soi ou pas ?
Alors... Ouais, quand même. Faut pas raconter de blagues. La notoriété, c'est comme la richesse. Finalement, si j'ai la chance d'être très riche, faut pas me plaindre. Alors, la richesse a des inconvénients. Je vais payer beaucoup d'impôts. On va me demander beaucoup de choses. Enfin bon. Mais, ok. Alors, dans ce cas, c'est pas compliqué. Hein. Donnez tout et choisissez la pauvreté.
Mais, voilà. Mais ça a aussi des avantages. En termes de liberté, en termes de générosité.
Et la notoriété, c'est pareil. C'est-à-dire, bien sûr, alors, moi, je, de temps en temps, j'ai pu bavarder avec des stars, quoi, des gens qui font du cinéma, qui sont très connus, etc. Et c'est vrai que, bon, ça leur complique la vie. Ils sont obligés de pour pas être arrêtés dans la rue tous les 3 mètres, d'avoir des lunettes noires, une casquette, de se cacher. Mais
ça a fait grandir leur estime d'eux-mêmes, si vous avez échangé avec eux.
Eh bien, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est comme si c'était dissocié. C'est-à-dire, vous pouvez très bien être une grande star ou quelqu'un qui a très bien réussi dans sa vie, et toujours nourrir des doutes par rapport à vous, parce que il y a quelque chose qui peut apparaître qui est de l'ordre du sentiment d'imposture. Toute cette espèce d'idéalisation dont vous êtes l'objet, cette adoration dont vous êtes l'objet, intuitivement, vous sentez que c'est pas mérité, que vous êtes quelqu'un d'ordinaire, finalement, et de voilà, ni mieux ni moins bien que les autres, que vous avez peut-être deux, trois petits talents qui vous ont permis de passer au-dessus des autres, mais qu'il y a eu beaucoup de chance, il y a eu beaucoup de rencontres. Vous savez, dans tout succès, il est dû, un, à mes efforts ou mes talents, deux, à la chance, et trois, à tous les autres, tous les gens qui m'ont formé, aidé, aimé. Donc, les stars assez lucides le savent parfaitement, et du coup, leur estime de soi, elle n'est pas forcément trop boursouflée.
Et alors, Christophe André, parlons de vous, parce qu'il y a une entrée Christophe André dans S'estimer et s'oublier dans ce livre. Qu'est-ce que votre personnage public, puisque dans un certain domaine, vous êtes devenu une star du développement personnel, de la psychologie, enfin, vos livres se vendent bien, des millions de personnes vous connaissent. Qu'est-ce que votre personnage public vous a enseigné sur l'estime de vous-même?
Bon, alors, je ne suis quand même pas une star. La star, c'est quelqu'un que tout le monde reconnaît, quoi, pratiquement.
Vous pouvez marcher dans la rue, mais ce matin, en prenant mon train pour venir chez vous, en montant sur le quai, j'ai vu votre photo pour annoncer ce livre. Donc, votre tête est affichée, des gens vous reconnaissent dans la rue. Vous le savez
de
bien.
De temps en temps, non, mais ça, voilà. Bon. Après, il y a plusieurs
degrés. Donc, il y a de la notoriété.
Voilà, c'est une petite notoriété dans le milieu des gens qui aiment la psy, etc. Mais bon, vous avez raison, on se fait quand même reconnaître dans la rue, dans le train. Bon.
Alors, comment vous gérez ça?
Eh bien, alors...
Sincèrement.
sincèrement, c'est très intéressant. D'abord, je m'en réjouis. Sincèrement, je m'en réjouis. Mais ça, alors, pour me justifier, peut-être, moi, je suis médecin. Pendant très longtemps, j'ai été un médecin anonyme, quoi, jusqu'à, je sais pas, 40 ans, hein, jusqu'à ce que mes livres deviennent des succès. J'ai soigné tranquillement et ma grande joie de professionnel, c'était quand mes patients me remerciaient de les avoir aidés, de les avoir guéris, de les avoir sauvés, etc. Voilà. Et il s'est trouvé que mes livres, ont commencé à bien marcher à un moment donné et que, les remerciements de lecteurs, de lectrices sont arrivés, des gens qui m'écrivaient, qui me disaient la même chose que mes patients. Donc pour moi, ça a été une continuité de mon travail de soignant, de soigner, entre guillemets, d'aider, en tout cas à distance, par mes livres. Donc ça m'a toujours fait plaisir. Après, le fait d'être reconnu, c'est un peu flatteur, c'est un peu touchant, et c'est plutôt agréable parce que les gens qui me reconnaissent et qui m'arrêtent, c'est pour me dire des choses gentilles. S'ils m'arrêtaient pour m'engueuler, j'aimerais moins.
C'est positif dans un processus.
Non, ça me sécurise, ça me fait du bien.
Ça vous fait du bien.
Non, ça va.
Mais on peut prendre la grosse tête.
Alors, je ne prends pas la grosse tête pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis parti de loin. Non, moi, je n'étais pas du tout sûr de moi pendant une grande partie de ma vie. Donc, bon, voilà, premier point. Deuxième point, ça m'est arrivé tard. Je pense que le drame, c'est certainement que le succès, la célébrité, la notoriété vous arrivent alors que vous êtes en construction à 18 ans, 20 ans.
Jeunes acteurs ou des jeunes chanteurs.
Voilà, le succès très tôt brouille les repères. Moi, je savais ce que c'était la vie, le travail, tout ça. Donc, ça m'arrivait tard, j'étais un peu plus calme. Et puis, j'ai eu la chance d'être bien accompagné. Par exemple, ma famille, mon épouse et mes trois filles, se sont toujours totalement foutus du fait, et ça les agaçait même. Elles n'aiment pas quand les gens m'abordent, voir ma photo, quand il y a des couvertures de magazines dans le métro et tout, ça les agace beaucoup, quoi. Elles me regardent jamais quand je passe à la télé, elles lisent vaguement mes livres et encore. Donc, ça, c'est un petit rappel à l'ordre du fait que la vie est ailleurs.
Elles participent à aider ce que vous écrivez dans votre livre. L'homme dont on parle quand on parle de mes livres n'existe pas.
Ouais, ça, c'est Bobin, c'est génial, ça. L'homme dont on parle quand on
parle. Vous le citez souvent, Bobin, vous sentez proche de lui. Et ça, c'est vous, ça, l'homme dont on parle quand on parle de mes livres n'existe pas. Vous le citez, mais est-ce que vous ressentez ça?
Complètement. Oui, parce que mais les gens nous idéalisent tellement que c'est touchant, évidemment. Mes lectrices et mes lecteurs, ils pensent que je suis toujours zen, que je fais toujours de la méditation des heures et des heures par jour, que voilà.
Vous êtes un grand sage.
Oui, voilà. Oui, oui. Ben non, je suis un apprentissage comme eux, faut pas croire. Je fais de mon mieux. Non. Et puis, le troisième point, je disais, voilà, j'ai été bien accompagné par mes intimes qui se foutent totalement de ma notoriété et par des amis proches. Voilà, des gens, par exemple, comme Christian Bobin et Mathieu Ricard, m'ont beaucoup appris sur ces histoires-là. Christian Bobin, bon, qui lui-même était très attentif à ces choses-là. Et un jour, je lui écrivais, j'en parle dans mon livre, je ne sais plus trop à quelle entrée, je le félicitais, il a reçu le Grand Prix de l'Académie française, là, je ne sais plus quelle année, donc j'écris, cher Christian, je suis vraiment content pour toi, c'est bien qu'on reconnaisse, etc. Et il me répond quelque chose, déjà, oui, merci, Christophe, merci, mais tu sais, la reconnaissance, les applaudissements, tout ça, c'est du poison. D'ailleurs, regarde, on parle de salve d'applaudissements comme on parle de salve de mitraillettes. Tu vois, c'est mauvais, quoi, pour nous. Et puis, Mathieu Ricard aussi, qui, voilà, un bon bouddhiste, lui, a fait en permanence la chasse aux boursouflures de l'ego. Et je raconte là aussi
cette dans le livre, là, cette anecdote là où vous êtes sur scène et le présentateur ne cesse de faire des louanges sur vous deux. Et lui, il ferme les yeux pendant...
Voilà, Mathieu, voilà, il y a 3000 personnes qui regardent, et je vois le Mathieu qui ferme les yeux pendant le déluge de compliments. Donc après la conférence, je dis, mais Mathieu, pourquoi tu fermais les yeux? Il dit, parce que ça ne me concernait pas, fond, moi, tout ça, c'est compliments. Et donc, je fermais les yeux pour, non pas savourer, mais... remercier mes maîtres. J'ai dit, ben voilà, tous ces compliments qu'on m'adresse, d'abord c'est sans intérêt, et puis surtout, c'est à vous que je le dois, mes chers maîtres, donc je repense à vous, je vous dédie cet instant. Voilà, les compliments glissaient sur les plumes de Mathieu comme la pluie sur les plumes des canards.
Et inversement, Christophe André, la notoriété entraîne aussi des critiques, des vacheries, comme vous dites. Comment vous avez géré ça, vous, pour l'estime de vous-même, vous qui êtes sensible? Comment vous avez géré ces critiques qui continuent à, à pleuvoir, mais à vous concerner, vous et tous ceux qui sont dans le développement personnel, par exemple?
Oui. Ah oui, ça c'est dur. Au début, effectivement, on avance un peu naïvement, on fait de notre mieux, voilà, on écrit des livres où on met notre cœur, notre savoir-faire, nos convictions, on voit que ces livres font du bien, et puis on se fait allumer, notamment alors par certains critiques des médias qui n'aiment pas notre style, qui n'aiment pas la psychologie positive, qui n'aiment pas la méditation, qui n'aiment pas qu'on ait du succès sans doute aussi. Et puis on se fait allumer sur les réseaux sociaux, la quantité.
Et méchamment parfois.
Ah ouais, méchamment, injustement, à nos yeux, cruellement, enfin bon, bref.
Et alors est-ce que ça atteint votre estime de vous-même?
Alors non. Ça, sincèrement, c'est pas l'estime de soi qui est atteinte, parce que moi, je sais ce que vaut ce que j'écris. Moi, je n'écris pas des chefs-d'œuvre qui méritent le prix Nobel. J'écris des livres, des bons livres d'aide psychologique, voilà.
Aider les autres, c'est votre objectif.
Je sais exactement ce que j'écris et ce que ça vaut, et je pense que c'est des bons livres d'aide. Bref, mais donc. Ça remet pas en question l'estime que j'ai pour moi-même. Par contre, ça fait mal émotionnellement. C'est comme fait mal le fait de se faire insulter, même si on sait qu'on ne mérite pas les insultes. Et donc, au début, ça fait souffrir. Et on va trop sur les réseaux, sur les commentaires des sites internet. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu un déclic en parlant avec des proches qui avaient été. Je me suis dit, c'est le loyer. C'est le loyer de la notoriété, c'est-à-dire si tu es un petit peu connu, tu vas susciter ce genre de choses. Et là, c'est très simple, c'est un peu comme la richesse. Si ça t'ennuie d'être riche, appauvris-toi. Et si ça t'ennuie d'être critiqué sur les réseaux sociaux, dans les médias, disparais. Disparaît, c'est-à-dire fait ce que Milan Kundera, je parle de Milan Kundera dans mon livre aussi, grand écrivain, donc né en Moravie, l'ancienne.
N'aimait pas du tout les interviews, pas du tout la notoriété.
Ouais, puis il disait,
renvoyait à ses livres, point.
Voilà, il voulait pas qu'on le photographie et tout. Et il disait, moi je rêve d'une loi qui interdirait aux auteurs de mettre leur nom sur les livres. J'avais vu ça une fois en faisant une retraite dans un monastère. J'allais à la bibliothèque du monastère là pour passer un peu le temps. Et puis c'est là pour la première fois de ma vie que je suis tombé sur des livres où il y avait écrit un chartreux, une moniale. Enfin, les gens ne signaient pas. Mmh. Et Kundera disait, ben voilà, ça calmerait l'ego des écrivains. Donc, du coup, ils feraient moins de livres. Et puis, ça calmerait la violence de ce milieu littéraire. Parce qu'il s'était bien fait prendre à partie, lui aussi.
Christophe André, dans le titre de ce livre, S'estimer, s'oublier, vous parlez de l'estime de soi, on vient d'en parler longuement, mais j'aimerais qu'on parle maintenant de s'oublier. On a l'impression que c'est antinomique.
Ouais.
Si on s'estime, on s'apprécie, on a confiance en soi, et pourquoi le s'oublier est important ? Et qu'est-ce que vous entendez par ce s'oublier ?
Ouais, il est très important, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans le titre. Alors mon éditrice Odile Jacob me disait « Oui, mais attendez, les gens ne veulent pas s'oublier, Christophe. » Et je lui disais « Ben, il ferait mieux de s'oublier un peu quand même parfois. » Et ce titre est programmatique. Alors exactement, j'aurais dû choisir comme titre « S'estimer, puis s'oublier ». Dans l'ordre, dans cet ordre. C'est important de s'estimer, donc on a largement évoqué pourquoi, hein, vivre en paix avec soi, avoir un bon rapport avec soi-même nous permet d'accomplir des tas de choses tranquillement.
Pour avoir un bon rapport avec les autres,
voilà,
on l'a vu.
Dans notre vie, pour nous, pour les autres, pour le monde, etc. Ok. Mais l'estime de soi, au fond, faut pas en faire un but, faut pas en faire une obsession. C'est comme la santé. C'est important de prendre soin de sa santé, parce que si on a une santé correcte, on va pouvoir agir, vivre. Et les gens qui ont des problèmes de santé savent à quel point c'est parasitant pour eux, ça complique ce qu'ils veulent faire de leur vie. Donc, faut s'occuper de sa santé, mais faut pas en faire une obsession. Faut pas que chaque geste de notre vie soit destiné à promouvoir notre santé. Faut pas devenir hypochondriaque, faut pas devenir un obsédé de la bonne santé, etc. C'est un outil, c'est une voie, la santé, pour aller vers nos idéaux, nos objectifs. L'estime de soi, c'est pareil. L'estime de soi, c'est pas une fin en elle-même. Il faut pas s'estimer pour le plaisir de s'estimer. Il faut s'estimer pour faire la paix à l'intérieur de soi-même, pour pacifier nos incohérences, nos insatisfactions, nos instabilités, nos ambitions inutiles. Il faut faire ce ménage à l'intérieur de soi pour pouvoir sortir ensuite à l'extérieur et une fois de plus se tourner vers les autres, vers le monde, etc. Et donc cet oubli de soi, je crois qu'on l'évoquait tout à l'heure, c'est un des symptômes. Quand les gens vont bien en matière d'estime de soi, le nombre de pensées autocentrées descend considérablement. Ils sont pas centrés sur eux, ils sont ouverts vers les autres. Quand on va mal, on est centré sur soi. Quand on vient de se faire critiquer, quand on vient d'échouer, on a beaucoup de pensées centrées sur soi. C'est pas un problème, il faut réfléchir sur soi de temps en temps, mais au bout d'un moment, ben, il faut sortir, ouvrir la porte, ouvrir la fenêtre et sortir à l'extérieur. Donc, l'oubli de soi, c'est un truc central.
Mais Christophe André, comment vivre ça avec l'éducation judéo-chrétienne que beaucoup ont reçue? Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se souviennent de l'éducation qu'ils ont reçue, où on leur a toujours dit « oublie-toi toi-même, renonce à toi-même, ton moi est haïssable ». Vous voyez ce côté...
Non, mais je comprends. C'est pour ça, Thierry, que j'ai pas appelé le livre « S'oublier ou oublie-toi ». Je l'ai appelé « S'estimer et s'oublier ». S'estimer et s'oublier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très important d'avoir une bonne estime de soi. Effectivement, c'est la première étape. Et j'explique ça dans le livre de mon mieux, et puis notamment dans les deux précédents livres. Mais ce n'est qu'une étape. L'oubli de soi, c'est vraiment le symptôme qu'on a fait le boulot. Et attention, attention, l'oubli de soi, c'est pas la répression de ce que nous sommes, c'est pas le déni de nos besoins, c'est pas la suppression ou l'agression de soi. L'oubli de soi, c'est un allègement. C'est se dire, prends soin de toi, tu en vaux la peine, et plus tu auras pris soin de toi correctement, moins tu auras besoin de t'interroger sur qui tu es, qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce qu'on pense de toi, parce que l'action, les interactions te deviendront légères. Donc vraiment, il faut prendre cette notion d'oubli de soi comme un allègement de ce que les bouddhistes appellent l'ego, c'est-à-dire la partie inquiète de l'estime de soi, la partie revendicante, voilà, il faut qu'on me regarde, il faut qu'on m'aime, il faut qu'on m'admire, il faut que je réussisse. Toute cette partie-là, c'est bien de s'en alléger. Par contre, il ne faut pas s'alléger de cette bienveillance pour soi. Si je suis chrétien, Dieu nous a fait à son image, hein. On n'est pas des monstres. Mm-hmm. On n'est pas des monstres. On est juste imparfait, un peu claudiquant. On vaut la peine. On vaut la peine d'être aimé. On vaut la peine de s'aimer. Et plus on le fera, plus on sera léger.
Vous parlez, Christophe André, en médecin, en psychiatre. Mais la spiritualité est souvent là. Elle affleure. On va dire. Je veux pas dire souvent là, mais elle affleure. J'ai l'impression qu'il y a des forts parallèles entre les enseignements spirituels, et je le mets au pluriel, et puis ce travail dont vous parlez d'estime de soi et d'oubli de soi.
Oui, bien sûr. Après, moi, je suis dans une situation particulière. C'est-à-dire, d'une part, j'ai, comme la plupart des humains, je pense, une vie spirituelle, j'ai une foi que j'essaie de nourrir l'une et l'autre de mon mieux. Mais
il s'est développé avec le temps, hein, que vous n'aviez pas à une certaine
absolument,
époque,
qui
s'est développé, mais ça je renvoie à d'autres émissions plus anciennes que nous avions fait ensemble.
Absolument, absolument. Moi j'ai grandi dans la foi communiste, c'est-à-dire qui récuse toute forme de religion. C'était ma famille, et j'ai été heureux, et j'en ai gardé des
choses. Mais croyant en l'homme.
Ouais, voilà, absolument, l'homme en ses vertus, en ses valeurs. Puis j'ai découvert le catholicisme, grâce à mon épouse et sa famille, puis le bouddhisme, grâce à l'ami Mathieu Ricard, donc moi, je me définis comme un chrétien, hein, c'est clair, et ma spiritualité est très marquée par ça, mais j'ai de leçons à donner à personne dans ce domaine. Autant il me semble qu'en psychologie, à force de travail, d'études, de 40 ans de métier, d'aide, d'accompagnement, je peux me permettre d'avoir un avis et de le donner et de conseiller. Autant alors en matière de foi et de spiritualité, je suis un bricoleur, donc j'en parle, mais très prudemment. Et donc, bien sûr que ça affleure, comme vous l'avez dit, je pense que c'est perceptible, mais je suis très très prudent parce que là, je crois qu'il y a des gens bien meilleurs que moi pour parler de ça. Il y a des gens bien meilleurs que moi pour montrer des directions, et voilà.
Est-ce que la prière, la méditation participe à une meilleure estime de soi? Ou est-ce qu'au contraire, la pratique de la méditation, de la prière, est là pour tuer notre ego?
Alors, les effets, quand on observe ce que ça donne, en tout cas pour la méditation, hein, qui a été l'objet de pas mal d'études quand même à ce niveau-là, la méditation est bonne pour l'estime de soi, parce qu'elle est un outil à la fois de pacification de nos tourbillons intérieurs, de nos bouillonnements intérieurs. Elle est un outil de clarification. Elle nous permet quand même de mieux comprendre pourquoi finalement c'est absurde de se complexer comme on se complexe, ou d'être envieux, ou d'être insatisfait. Elle nous donne du recul par rapport à tout ce qui est un peu inutile en nous, comme agitation un peu vaine, un peu stérile. Donc on voit qu'indirectement, la pratique régulière chez les méditants améliore l'estime d'eux-mêmes. La prière, on n'a pas d'études, mais intuitivement, moi, ce que je pense, c'est que la prière, elle est très très bonne pour l'estime de soi, parce que d'abord, elle me sort de moi-même, elle me rappelle que il y a des grâces qui peuvent m'arriver, qui ne dépendent pas forcément de mes efforts ou de mes mérites, des choses qui sont au-dessus de moi, qui vont pouvoir arriver dans ma vie, à condition que je les accueille, à condition que je pense que je suis pas le maître absolu à bord. Je suis le capitaine du navire, peut-être, mais il y a quand même le vent, il y a quand même les vagues, il y a quand même des tas d'autres choses qui vont peser sur ma croisière, sur mon cap. Et la prière, ben, elle est bonne pour l'estime de soi, parce qu'à la fois, elle m'apporte de l'humilité. Je suis qu'un petit humain, hein, je suis pas le roi de la jungle. Et il me semble de la sérénité et confiance. Voilà, ton Dieu ne te veut pas de mal. Y a des épreuves, il y a des choses qui ne vont pas, mais voilà, il t'aime, il te veut du bien. Donc, va dans ce sens-là, quoi. Ne te fais pas de mal, c'est pas au programme.
En fait, en vous lisant, Christophe André, tout au long de ce livre, je trouvais que vous nous ameniez vers une simple acceptation de qui nous sommes finalement, de se simplifier pour comprendre que il faut faire le mieux possible notre vie d'homme et de femme sur cette terre. Il y a quelque chose de simplifiant dans cette estime de soi.
C'est vrai, c'est-à-dire l'acceptation, hein, c'est pas la soumission, la résignation, c'est rester dans le réel, prendre le réel comme il est. Il pleut, j'accepte la pluie. De toute façon, que faire d'autre ? Il y a des gens qui me disent des vacheries que je ne mérite pas. Que faire d'autre que l'accepter ? Je suis pas aussi brillant que je le voudrais. Mais une fois que j'ai accepté que ça existait, ça ne veut pas dire que je renonce à agir, que je renonce à expliquer aux gens que leurs critiques sont absurdes, que je renonce à m'améliorer ou que je renonce à sortir malgré la pluie. Je mets mes bottes, je prends un parapluie et je vais quand même voir mes amis, faire des choses. Donc ça, c'est vrai que cette acceptation est importante. La simplification aussi, c'est-à-dire à un moment donné, le summum de la psychologie, c'est Etty Hillesum, cette penseuse lumineuse, hein, Etty Hillesum, qui est morte dans un camp nazi, malheureusement pour elle et pour nous surtout, mais pour elle d'abord quand même, et qui avait une pensée alors splendide que je vais mal rapporter. Elle disait au fond, tout le but du travail psychologique, c'est d'aller vers la simplification en ce qui nous concerne, mais par contre, de rendre plus subtil et plus complexe notre regard sur les autres, d'essayer de mieux comprendre toute la richesse et la complexité des autres, et nous, de simplifier un peu, voilà, notre vie intérieure et notre façon de nous comporter, d'aller vers le bien, de nous écarter du mal, et voilà, elle le dit plus joliment, hein, il faut aller la lire en direct.
Merci beaucoup, Christophe André. J'étais ravi, une fois encore, de cet échange avec vous. Je renvoie à votre livre, un abécédaire. Hein, donc, il faut le déguster, entrée par entrée. On peut choisir ses entrées. Et donc, ce livre s'intitule « S'estimer et s'oublier » que vous venez de publier aux éditions Odile Jacob. Et puis, un grand merci pour tous ces échanges que nous avons depuis des années maintenant. Et c'est le dernier entretien que je vais vivre avec vous avant d'arrêter ce métier. J'étais ravi depuis plus de 20 ans de vous rencontrer, Christophe André.
Merci beaucoup Thierry, ces entretiens m'ont moi aussi beaucoup apporté, beaucoup nourri. Je suis très triste de savoir qu'on ne pourra plus écouter de nouveaux dialogues.
Mais on pourra écouter les anciens.
On pourra réécouter
bien sûr, c'est l'avantage des podcasts.
Tout le travail que vous avez fait avec tant de personnes. Merci beaucoup.
Merci Christophe.
Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.